C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai changé et transformé de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Donc, cette semaine, on va continuer une série qu'on a commencée il y a déjà 6 semaines. Et je m'excuse pour le bruit avec le micro. On a dû changer de micro ce matin. On avait un petit problème avec le micro sans fil qu'on va régler dans le plus bref délai. Hein? Parce que moi, j'aime pas être attaché. Mais c'est pas grave. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, c'est bon. Mais il y a 5 semaines à peu près, on a commencé cette série sur « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et on a parlé beaucoup de l'importance de notre foi dans la vie chrétienne. On a dit dans le fond que qu'est-ce que Dieu veut? Il veut nous bénir, il veut nous donner toutes sortes de belles choses dans la vie même chrétienne. Il nous a donné son Fils Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord et que c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, c'est Jésus? Hein? On ne devrait jamais, jamais, jamais prendre pour acquis notre salut. Que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, même si la seule chose qu'on aurait pu recevoir, c'est la vie éternelle, déjà, ça serait assez, n'est-ce pas? Mais Dieu est tellement bon, il est tellement miséricordieux, il est tellement plein de bonté qu'il n'a pas arrêté là, juste avec le pardon de nos péchés, juste avec le salut pour notre âme. Mais la parole de Dieu dit en Romains chapitre 8, que comment celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Hein? Donc Jésus est venu, il a donné sa vie, il est devenu héritier de toutes choses et nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers, hein? Avec Jésus-Christ, de toutes choses. Donc, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis, pas juste avec la vie abondante, la vie éternelle, mais nous avons aussi toutes les autres choses que Dieu a promis qui viennent avec. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 103, il a dit « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit avait besoin d'inspirer ses paroles? C'est parce qu'il savait qu'on avait une tendance à oublier les bienfaits. Mais nous sommes au Québec, n'est-ce pas? Et je me souviens. Demandez, je me souviens. Demandez, je me souviens de tout ce que Dieu a fait pour moi. Et moi, j'oublie aucun de ses bienfaits. Et la Bible dit, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Est-ce que vous êtes content que toutes vos iniquités sont pardonnées? Tous vos péchés sont effacés. Et vous avez maintenant la possibilité de recommencer une nouvelle vie à zéro, avec un cœur net, avec un cœur qui est pur, purifié par le sang de Jésus. Mais il n'est pas juste ça. Hein? C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, mais c'est lui qui pardonne nos iniquités, mais c'est lui qui guérit toutes nos maladies aussi. Donc, ça fait partie aussi de son plan. Et il continue en disant que c'est lui qui nous délivre de la fosse. Et il y a tout un livre des bienfaits qui nous appartiennent en Jésus-Christ. Et si c'est vrai que nous sommes tellement bénis, si c'est vrai que Dieu a donné tellement de choses en son Fils, pourquoi, dans le corps de Christ, aujourd'hui, on peut regarder autour de nous et on voit clairement et que ce n'est pas tout le monde qui marche dans la lumière de ces bénédictions? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a beaucoup des enfants de Dieu, les personnes qui aiment Dieu, les personnes qui croient en Dieu, mais qui ne marchent pas dans la plénitude de ses bénédictions. N'est-ce pas vrai? Donc, il y a plusieurs raisons pour cela. Une chose, la Bible dit que mon peuple périsse faute de connaissance. Et souvent, les personnes ignorent qu'est-ce qui leur appartient en Jésus-Christ. Il y a d'autres fois, quand on voit clairement que il y a d'autres raisons pour lesquelles la puissance de Dieu, les bénédictions de Dieu ne coulent pas dans la vie des personnes. Et qu'est-ce qu'on a vu à travers les dernières quelques semaines? C'est que souvent, c'est une question de notre foi et de notre confiance.
Bien, yeah, comme Claude, mais j'aime quand même parler avec mes mains. Qu'est-ce qu'on veut? Mais on va continuer, hein? On ne va pas perdre qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Parce que vous savez que Dieu, il veut qu'on soit béni. Il veut qu'on reçoive toutes ses bénédictions, tous ses bienfaits. Dieu est un bon Père, il nous aime. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que si on n'a pas la foi, on n'est pas capable de recevoir ces choses. Si on n'a pas la foi, on n'est pas capable de marcher pleinement dans la lumière de ces choses. On a dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, « Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la plupart des personnes croient que Dieu existe, mais il y en a qui disent, oh, je ne crois pas que Dieu existe, mais ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes parce que la Bible dit, c'est l'insensé qui dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. On sait que Dieu existe et la plupart même des personnes dans ton entourage, si on ferait un sondage aujourd'hui à Drummondville, moi je dirais qu'au moins 80% des gens vont dire « oui, je crois que Dieu existe ». Mais c'est la deuxième partie qui est vraiment une source de problème pour beaucoup des gens. La Bible dit qu'il faut croire que Dieu existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il ne faut pas juste croire qu'il est là, il faut croire qu'il est là et il faut croire qu'il nous aime. Et qu'il veut nous rémunérer. Il veut nous donner des bonnes choses. L'Éternel est un bouclier et un soleil. Et il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est ça que la parole de Dieu dit en psaume 84, n'est-ce pas? Dieu est bon, il est un bon papa, il aime donner. C'est lui qui donne librement, sans reproche à tous ceux qui demandent, n'est-ce pas? Et ça, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a vu à travers les semaines? C'est que Dieu ne fait exception de personne. Souvent, on voit les personnes qui sont bénies, qui marchent dans certaines bénédictions. On dit, on peut avoir l'impression, c'est parce que, mais Dieu doit aimer cette personne plus qu'il m'aime ou plus qu'il aime une autre. Et ça, c'est pas vrai parce que l'amour de Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas des chouchous, n'est-ce pas? Dieu a des enfants qu'il aime avec un amour qui est égal pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on sait? Même s'il aime tout le monde, qu'il est quand même, il ne fait exception de personne, il va respecter la foi des gens. Et on peut avoir deux personnes qui sont tous les deux aimées de Dieu. Mais si une de ces personnes a plus confiance en Dieu, a plus de foi, cette personne va être en mesure de recevoir davantage. N'est-ce pas? Une autre personne qui a moins de confiance, qui a plus de peur, plus de crainte dans sa vie, va lui-même empêcher, comme on a dit la semaine passée, c'est l'incrédulité qui nous empêche de marcher dans les bénédictions de Dieu. Donc, on a vu l'importance d'avoir foi en Dieu, d'avoir confiance en Dieu. On a vu l'exemple de la femme atteinte d'une perte de sang, qui pendant 12 ans, elle était malade, elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour les médecins, et elle n'était pas mieux, elle allait en s'empirant. Sa situation s'empirait au lieu de s'améliorer. Mais, et on a entendu parler de Jésus. Elle a pris une décision d'aller le voir. Et elle se disait en elle-même, si seulement je touche le bord de son vêtement, si seulement je touche le bord de son vêtement, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Même s'il y avait une foule de personnes qui touchaient Jésus physiquement, même s'il était entouré par des milliers de personnes, quand cette femme a touché le bord de son vêtement, la puissance de Dieu a coulé de Jésus dans cette femme. Jésus a arrêté, il a ressenti en lui-même qu'il y a une puissance qui est sortie de lui et il a dit, « Qui m'a touché? » Les disciples ont dit, « Qui t'a touché? » Tout le monde est en train de toucher. Hein? En réalité, c'est ça un peu la pensée qu'ils auraient dû avoir. Mais je disais, non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai ressenti une force est sortie de moi. Et puis la femme a avoué à Jésus, en tremblant devant lui, a dit, avoué. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Fille, ta foi t'a sauvée. Tout de suite, la puissance de Dieu a fait son œuvre. Elle était guérie. Le sang qui avait coulé en elle depuis 12 ans s'est arrêtée, elle a vu en elle-même, elle a ressenti la puissance de Dieu en elle-même, elle a été guérie surnaturellement. N'est-ce pas merveilleux? Mais pourquoi est-ce qu'elle a été guérie? Est-ce que c'est parce que Jésus a dit, « Oh, j'aime cette femme plus que j'aime les autres? » Non, c'est parce que cette femme a touché Jésus avec foi. Amen? On voit tellement des fois les aveugles qui sont venus vers Jésus et les aveugles qui ont demandé, Jésus a demandé, « Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? » Ils ont dit, « Oui. » Qu'est-ce que Jésus a répondu? « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et il fut guéri. Le centenier qui avait un serviteur qui était paralysé a envoyé pour chercher Jésus, pour que Jésus guérisse son serviteur. Et Jésus a dit tout de suite, « Je vais aller, je vais le guérir. » L'homme a dit, « Même pas besoin de venir sur mon toit, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit, mais dis seulement une parole et je sais que mon serviteur sera guéri, car moi aussi je suis un homme sous l'autorité j'ai des hommes sous moi et je dis à mes soldats, « Va, ils vont aller, viennent, ils vont venir, etc. » Et Jésus a dit, « Même en tout Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. » Et qu'est-ce qu'il a dit encore? « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et le serviteur du centenier fut guéri, n'est-ce pas? Donc, souvent, le problème, c'est qu'on a l'idée que c'est Dieu qui est assis au ciel et il choisit. Je vais faire ça pour lui, je vais pas faire ça pour lui, je vais faire ça pour lui, je vais pas faire ça pour elle. Mais comme on a dit avec la prise électrique, il y a du courant dans ces prises. On peut toucher ces prises et rien ne va se passer. Si je touche une prise aujourd'hui avec ma main, il n'y a rien qui va se passer. Mais si je prends un instrument électrique, si je prends, comme on a dit, une scie ronde ou le clavier qui est équipé avec un fil, là, je peux prendre ce fil, je peux le brancher, et laisse-moi vous dire, le courant va entrer dans le fil et faire fonctionner l'appareil, n'est-ce pas? La prise ne va pas dire, « Ah, je reconnais qu'au bout de ce fil, il y a un clavier, moi, je ne veux pas entendre la musique, je ne laisse pas couler ma puissance. » Ou, « Oh, je ne veux pas entendre une scie aujourd'hui, je ne laisse pas couler la puissance. » Aussi longtemps qu'on est branché, la puissance va couler. Et c'est la même chose qu'il faut savoir, que quand on parle des choses que Dieu a promis, pas n'importe quoi, mais les choses que Dieu a dit dans sa parole, telle promesse, telle chose t'appartient. Et Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous savez, c'est conditionnel, n'est-ce pas? Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il y a des gens qui ont compris juste la partie « demandez ce que vous voudrez ». Donc, ils veulent toutes sortes d'affaires. Et ils ont demandé toutes sortes d'affaires. Mais ça marche pas parce qu'ils ne demeurent pas en Jésus, ils sont pas en relation avec Jésus et la parole de Dieu n'est pas en eux. Si nous sommes en communion avec Jésus-Christ et si la parole de Dieu est dans notre cœur, on va connaître son cœur, on va connaître sa volonté et on ne va demander que des choses que Dieu veut qu'on demande, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi en Jean 5,14 dit, « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, demandez selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons les choses qu'on a demandées. » Donc là, on voit l'importance que la foi est la chose qui relâche la puissance de Dieu dans notre vie. La foi relâche la puissance de Dieu dans notre vie. Mais la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Et on connaît la volonté de Dieu en demeurant en Christ et en laissant sa parole demeurer en nous. Amen. Donc c'est ça l'affaire qu'il faut savoir. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc on a parlé beaucoup de l'importance de nourrir notre foi, de faire grandir notre foi, de savoir qu'aussi longtemps qu'on est branché à Jésus et on demande les choses selon sa volonté, qu'on peut savoir sans aucun doute que qu'est-ce que Dieu a demandé nous appartient. C'est comme Jésus a dit, je vous le dis, en vérité, il a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Donc ça, c'est juste une petite révision de plusieurs choses qu'on a vues à travers les cinq dernières semaines. Mais aujourd'hui, on veut parler un petit peu de comment développer une foi qui est ferme. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, des fois, on peut arriver à une place où on entend la prédication de la parole de Dieu, on commence à croire des choses, on commence à faire confiance en Dieu, notre foi commence à grandir et devient grande. Mais si on ne fait pas attention, notre foi qui est grande aujourd'hui peut commencer à s'affaiblir. Notre foi qui est grande aujourd'hui peut... Ça ne me dérange pas, un bébé qui pleure, c'est pas du tout grave, hein? Donc, mais une foi qui est grande aujourd'hui, si on ne fait pas attention, si on ne nourrit pas notre foi peut devenir faible. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur d'amener un message là-dessus. Hébreux chapitre 2, verset 1 dit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Est-ce que vous êtes d'accord que notre salut est si grand? Que Dieu est si bon? Mais ici, cette parole dit qu'il faut faire attention. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et pendant 5 semaines, on a parlé de la foi. On a parlé de la confiance en Dieu. On a parlé de l'importance de croire que Dieu n'est pas seulement capable, que Dieu peut faire des choses, qu'il veut faire des choses et qu'il va faire des choses pour nous. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous exhorter à nous attacher à ce que nous avons entendu. Hein? Et moi, j'ai l'image de quelqu'un, hein? Des fois, on voit dans les films, etc., des personnes qui sont sur les navires et les personnes qui rencontrent des grosses tempêtes, vous avez vu, hein? Je m'en souviens des fois, les personnes qui avaient besoin de s'attacher avec une corde pour pas tomber du bateau. Et moi, je pense que c'est un peu la même chose, dans le même principe. Nous avons besoin de nous attacher à la navire de notre foi. Amen. Il faut qu'on reste branché à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va avoir dans ce monde, Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez la tribulation. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. La foi exige un combat. Et quand vous commencez à croire en Dieu, quand vous commencez à croire en Jésus, que ce soit pour votre salut, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour une provision ou n'importe quel autre domaine, pour la sagesse dont vous avez besoin, sachez que vous allez avoir les tempêtes qui vont venir pour éprouver votre foi. Votre foi va être testée. Il y a des circonstances qui vont se présenter dans votre vie qui vont essayer d'ébranler votre foi. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je sais. Souvent, il y a des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui ont fait confiance en Jésus pour le salut de leur âme, et ils viennent me voir après et disent, « Mais tu sais quoi? C'est bon, je sais que je suis sauvé, mais depuis que j'ai accepté Jésus, il y a des choses qui commencent à brasser dans ma vie. » Bienvenue au club, c'est normal. C'est normal. Hein? Laisse-moi vous dire, il y a des personnes qui ont prié pour une personne des fois. Une chose que je sais, Jésus, dans la parabole de Semeur, a dit que quand la semence de la parole de Dieu est semée dans le cœur de quelqu'un, que Satan vienne tout de suite pour voler la parole, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire, ça m'est déjà arrivé, on fait une série de qu'est-ce que la Bible dit concernant le mariage. Comment les maris doivent aimer leurs femmes et comment les femmes doivent avoir du respect pour les maris, etc. Et laisse-moi vous dire, souvent les couples sont testés et ébranlés dans leur foi parce que, laisse-moi vous dire, l'ennemi n'est pas content. La dernière chose que Satan veut, c'est que les couples marchent en amour. Donc, quand les couples chrétiens commencent à entendre parler de tous les bienfaits que Dieu a promis pour les mariages chrétiens et comment marcher dans les bénédictions dans le mariage, comment avoir une vraie intimité dans le mariage, c'est sûr et certain que l'ennemi ne va pas se croiser les bras. Il va venir pour voler cette parole, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on a besoin de nous attacher à qu'est-ce que nous avons entendu, de peur d'être emportés loin. On ne veut pas être emporté loin de ce que nous avons entendu. On veut rester ferme, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, vous savez que vous avez un adversaire? Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Résistez-lui avec une foi ferme. Pas avec une foi qui est faible. Pas avec une foi qui dit, oh, mais peut-être oui, mais peut-être non, peut-être oui, peut-être non, je ne sais plus rien. Il y a des personnes, je sais, je les rencontre régulièrement, des personnes qui viennent me voir avec des problèmes, et des fois c'est comme, je ne sais plus quoi penser. Est-ce que vous avez déjà passé par des moments comme ça? Où la vie est bousculée, la vie est troublée, mais là, on a quand même une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui, c'est que votre foi est assez forte, votre foi est assez grande, votre foi a la capacité de vous aider à remporter la victoire dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, vous pouvez toujours avoir la victoire dans l'épreuve. Amen? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, je crois. Donc, il faut d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Attachez-vous. Est-ce que vous êtes attaché aujourd'hui? Attaché à Dieu, mais aussi attaché aux choses que vous avez entendues. Les vérités de la parole de Dieu. Les choses que quand vous avez entendu ces choses, quelque chose dans votre cœur, l'espérance et la foi commençaient à prendre la vie dans votre cœur. Vous avez dit, waouh, c'est vrai, Dieu veut des bonnes choses pour moi. Dieu a fait telle promesse pour moi. Et quand vous avez entendu cela, il y avait une joie dans votre cœur. Mais est-ce que vous êtes encore attaché aujourd'hui? Bonne question, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 3, dans vos notes, dit ceci. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. C'est ça le problème des fois, le cœur humain a une tendance à s'égarer de la vérité, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. On a parlé de cela la semaine passée, n'est-ce pas? Au point de se détourner de Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Je vous exhorte aujourd'hui. Restez attachés à ce que vous avez entendu. Restez fermes dans votre foi. Ne vous laissez pas ébranler par les circonstances. Comme Pierre qui marchait sur les eaux, il avait la foi pour marcher sur les eaux, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, au lieu de garder les yeux sur Jésus, il regardait les vagues. Il regardait le vent et qu'est-ce que le vent faisait. Et il a eu peur. Et parce qu'il a eu peur, il commençait à s'écrouler dans la mer. Et Jésus l'a pris par la main et a dit, « Oh, toi de peu de foi, pourquoi est-ce que tu as douté? » Il faut rester attaché à notre foi. Amen. Regarde bien en Hébreux chapitre 3, verset 12. « Prenez garde. » Frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Intéressant, n'est-ce pas? La Bible dit qu'on a besoin d'être exhorté à tous les jours par rapport à notre foi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de manger à tous les jours? N'est-ce pas? Bon, oui, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient manger à tous les jours? Pourquoi? Parce qu'on a besoin, notre corps a besoin d'être nourri. C'est comme un muscle. Si je n'utilise pas un muscle, mon muscle va devenir de plus en plus faible, n'est-ce pas? La foi, c'est pareil. Si votre foi n'est pas nourrie, si vous ne faites pas des exercices de votre foi va être diminuée. Et c'est là où on a besoin de rester attaché à ce que nous avons entendu. On va continuer ici en verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, tout le monde dit fermement, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et j'ai vu tellement des fois des personnes qui avaient une assurance au commencement de leur vie chrétienne, mais avec le temps, ils se sont laissés emporter loin de leur foi. Moi, je connais des personnes aujourd'hui qui autrefois aimaient Jésus, mais qui aujourd'hui, sont tellement, tellement éloignés de Dieu, ils ne vont plus à l'église, ils ne lisent plus la Bible, et ils ont des doutes même par rapport à leur salut. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? Je connais d'autres personnes qui ont commencé à entendre les choses concernant les bienfaits de Dieu, les promesses de Dieu, et qui ont commencé à marcher dans la santé divine. Mais avec le temps, avec les tribulations, ils se sont laissés emporter loin de ces vérités. Et il y a des personnes qui autrefois qui croyaient telle chose qu'aujourd'hui, ils ne croient plus. C'est vrai, n'est-ce pas? Et c'est une chose qu'on voit régulièrement. C'est pourquoi Jésus a même prié pour Pierre. J'ai prié pour vous, n'est-ce pas? Il a dit, Satan a désiré vous avoir pour vous brasser, on pourrait dire, pour vous secouer un petit peu, mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne faille pas. Amen. Et c'est ça exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, de savoir que le Seigneur, il prie pour nous aussi, pour que notre foi reste ferme. Tout le monde dit, j'ai une grande foi. Tout le monde dit, j'ai confiance en Dieu. Amen. Et il faut garder cette assurance. Il faut retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc aujourd'hui, on parle de cela. Comment avoir une foi qui est ferme? Comment avoir une foi qui est capable de faire face aux épreuves? Comment avoir une foi qui est capable de rester chaud, on peut dire, même quand le diable veut nous donner une douche froide? Est-ce que vous avez déjà eu des douches froides spirituellement parlant? Les douches froides viennent sous plusieurs formes. Hein? Des fois, c'est les circonstances de la vie, qu'on croit fermement que Dieu va faire une chose, et puis il nous semble que le contraire est en train de se produire. Hein? Est-ce que vous savez de quoi je parle? On a des problèmes financiers, on découvre les versets qui promettent que Dieu va pourvoir nos besoins, on prie pour cela, on croit à cela, mais au lieu de voir les choses s'améliorer, des fois les choses s'empirent. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous a abandonnés? Non. N'oubliez pas, Shadrach, Meshach, Abednego, n'est-ce pas? Ils auraient aimé avoir une douche froide, hein? Non. Mais quand ils étaient là, devant la fournaise, qui était pas mal chaude déjà, quand ils ont tenu ferme, quand ils n'ont pas fait des compromis par rapport à leur foi et leur confiance en Dieu, c'est quoi qui s'est passé? Ils ont réchauffé la fournaise 7 fois plus. Donc au lieu de voir le problème diminuer, quand ils ont fait leur confession de foi, au lieu de voir les circonstances commencer à s'améliorer, les choses se sont empirées. C'est 7 fois plus chaud que c'était avant. Et j'ai à cœur de dire cela ce matin. Je crois vraiment sous l'inspiration de l'Esprit. Il y a quelques-uns de vous, vous allez faire confiance à Dieu pour certaines choses dans votre vie. Vous allez peut-être donner votre vie à Jésus. Vous allez faire confiance à lui pour sa provision dans votre vie. Et ça se peut que les choses vont dans le naturel avoir l'apparence d'être 7 fois pire qu'avant. Mais c'est à ces moments-là qu'il faut tenir ferme. Et c'est dans ces moments où les choses sont éprouvées, où votre foi est testée, où les circonstances et tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez dit le contraire, où vous allez dire non, mais Dieu a dit. Amen. Finalement, ils ont été jetés dans la fournaise. Et même ceux qui ont ouvert la porte furent brûlés. Mais eux autres ne sentaient même pas la fumée. Amen. Dieu est fidèle. Et des fois, on a l'impression que Dieu est en retard, mais Dieu n'est jamais en retard. Mais une chose que j'ai découvert, il n'est pas souvent en avance non plus. Avez-vous remarqué? On voit une fois, exemple après exemple, les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, c'était un peu la dernière minute, n'est-ce pas, quand les eaux de la mer Rouge ont été séparées. On voit combien des fois les exemples dans la parole de Dieu. Les eaux du Jourdain n'ont été pas retenues non plus avant que les sacrificateurs ont mis leurs pieds. En fait, la Bible dit quand ils ont eu les pieds mouillés. Mais Seigneur, tu aurais pu faire cela avant, n'est-ce pas? Dieu, des fois, il est comme ça. Il veut voir, est-ce qu'on croit? Mettez votre pied dans l'eau. Ayez un pied. Tu vas voir. Amen. Moïse, étends ta main. Jésus, va, lave-toi dans la piscine de Siloam. Lève-toi. Il dit, étends ta main. Jésus demande toujours une action avec notre foi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui? C'est que Dieu est bon, Dieu nous aime, il a mis en nous une foi, mais c'est à nous de rester attachés aux choses que nous avons entendues et de développer une foi qui est ferme et qui est capable de faire face au feu, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Trois choses qu'on veut voir aujourd'hui. Numéro un, et c'est là où la plupart des chrétiens vont avoir les problèmes, je crois, par rapport à leur foi ferme. Efforcez-vous de connaître les voies de Dieu. Je n'ai pas dit la voie, mais les voies de Dieu. Qu'est-ce que c'est la voie de Dieu? C'est les moyens par lesquels Dieu travaille. Il y a un verset d'Écriture qui est vraiment intéressant. Et vous vous rappelez que qu'est-ce qu'on a lu tantôt en Hébreux chapitre 3? Il a dit que je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Pourquoi est-ce que notre cœur s'égare des fois? Pourquoi est-ce qu'on a une tendance à être emporté loin de nos croyances? C'est parce que nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Si on connaît ses voies, on reste attaché et notre cœur ne s'égare pas. Et regarde bien dans le psaume 103, verset 6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Autrement dit, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Comme un père à compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Mais il y a deux mots clés dans ce passage. Il a dit qu'il a manifesté, verset 7, ses voies, souligne le mot voies, à Moïse, et ses œuvres, souligne le mot œuvres, aux enfants d'Israël. Et est-ce que vous êtes d'accord que si on parle de Moïse et on parle de tous les autres enfants d'Israël qui étaient dans le désert avec lui, que s'il y a un de ces deux groupes, on pourrait dire, Moïse et puis les enfants d'Israël, il y a un qui avait plus de foi que les autres, c'était Moïse, n'est-ce pas? Moïse avait pas mal plus confiance en Dieu que la plupart de tous les autres enfants d'Israël. Mais je pense que la clé ici, c'est que eux autres, ils ont vu la manifestation des œuvres de Dieu. Ils ont vu en Égypte les fléaux, ils ont vu les grenouilles qui ont envahi le pays. Ils ont vu tout ce qui s'est passé pendant des mois de temps avec Pharaon. Ils ont vu avec leurs propres yeux les œuvres de Dieu. Vous êtes d'accord? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont vu qu'il n'y a personne qui traînait le pied. Il n'y a personne qui traînait le pied. Tout le monde était en santé en partant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé la chair de l'agneau. Ils ont vu le miracle à la mer Rouge. Ils ont passé à sec, ils ont vu les œuvres de Dieu. Mais, même s'ils ont vu la manifestation des œuvres de Dieu, ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. Moïse, par contre, connaissait les voies de Dieu. Et c'est pourquoi, moi je dis souvent, quand on parle de Dieu, Dieu est bon, il est puissant, il veut faire des bonnes choses, mais il ne faut pas chercher la main de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut connaître le cœur de Dieu. Parce que si on cherche sa main, on va être comme mon labrador. Fanny rit, elle connaît bien notre labrador. Et vois-tu, mon labrador, malheureusement, je sais qu'ils disent que et même son nom est chien en hébreu. Hein? Et chien en hébreu, c'est Caleb. Tout cœur. Et ça marche pour
Caleb qui est ici, notre petit chien Caleb Ouellet, il est tout cœur. Mais mon chien, je l'aime vraiment, mais laisse-moi vous dire, il est tout cher. Tout cher dans le sens que lui, il vit pour une chose, son estomac. Et c'est incroyable, mais on est avec mon chien et il regarde toujours ma main. Est-ce que j'ai quelque chose à lui donner? Hein? On va se promener. Si jamais je mets ma main dans ma poche, c'est comme... Il pense, oh, c'est sûrement une petite batterie pour lui, hein? Et il regarde ma main. Je veux parler avec lui. Il a toujours ses yeux fixés sur ma main. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça. Il regarde la main de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Dieu, qu'est-ce que ta main puissante peut faire pour moi aujourd'hui? Mais c'est pas ça, hein? La chose qui est le plus important, c'est de regarder son cœur, de chercher la face de Dieu. De connaître qu'est-ce qui est dans le cœur du papa. De connaître ses voies, pas juste ses œuvres. Parce que si on connaît les voies de Dieu et on connaît le cœur de Dieu, on n'a pas de la misère à croire à ses œuvres. En fait, on est convaincu quand on sait qu'on sait qu'on sait qu'est-ce qui est dans le cœur de papa, on sait qu'est-ce que sa main va faire. Amen? Un enfant qui connaît le cœur de son père n'a pas peur de sa main. Il sait que la main de papa va travailler pour pourvoir mes besoins. La main de papa, oui, peut me corriger des fois, c'est important. Mais la main de mon père est là pour me nourrir, pour me soigner, pour me protéger. Pourquoi est-ce qu'un enfant peut avoir cette confiance? Parce qu'il connaît le cœur de son père. N'est-ce pas? Et quand on a un père qui est en santé, et un père qui est un bon père, qui connaît le Seigneur Jésus, ça devrait être comme ça. Malheureusement, ici, sur la terre, les pères terrestres ne sont pas toujours dignes de confiance. Vous êtes d'accord? Et parce que les pères terrestres ne sont pas dignes de confiance, souvent, les personnes vont avoir la misère avec les pères célestes aussi. Ils n'ont pas confiance. Donc, on a besoin, plus que jamais auparavant, aujourd'hui, de chercher la face de Dieu, de chercher le cœur du Père. Et on a eu tellement une belle illustration ici dans ces passages. Il a dit ici que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Vous savez, on voit que Dieu est bon. On voit que Dieu est un papa, comme un père à compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. N'est-ce pas? Donc, voyez-vous jusqu'à quel point ça peut vous aider? Parce que pour moi, il est impossible pour moi de croire que Dieu ferait certaines choses que certaines chrétiennes disent qu'il fait. Est-ce que vous m'avez suivi? Il y a certains chrétiens qui vont dire, « Ouais, mais Dieu m'a fait telle chose. » J'ai déjà vu, entendu des personnes, les enfants de ces personnes ont été blessés, et les personnes ont dit, mais vois-tu, c'est Dieu qui te punit là. Parce que, hein, ils ont laissé tomber quelque chose sur le pied, et c'est Dieu qui te punit là. Hein, parce que, ça c'est, la personne ne connaît pas les voies de Dieu. C'est pas comme ça que le Père agit avec ses enfants. Donc c'est pas irraisonnable que les personnes qui ont cette impression, cette conviction dans le cœur que Dieu, il est comme ça, qu'à chaque fois qu'un jeune enfant fait une petite erreur, qu'il va faire tomber quelque chose sur son pied pour le punir, que quand on dit que Dieu veut que vous soyez en bonne santé, que Dieu veut que vous receviez la guérison, ils vont, non, mais peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. Mais si on connaît les voies de Dieu, hein? Moi, je sais que Dieu est bon. Est-ce que Dieu est juste? Oui. Est-ce que Dieu peut corriger? Est-ce que Dieu peut prononcer un jugement contre les personnes? Oui. Mais encore, il faut comprendre le cœur de Dieu. Il faut comprendre tout le conseil de Dieu. Il faut parcourir les Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse pour voir l'ensemble de l'attitude de Dieu et le cœur de Dieu envers son peuple. Et on voit, oui, Dieu prononce le jugement. Dieu permet certaines choses avec certains groupes de personnes. Mais il y a certaines choses, par exemple, juste un exemple. Dieu, un jour, va manifester sa colère. Et le jugement de Dieu va tomber sur la planète Terre. Vous êtes d'accord? Mais la Bible dit que Dieu a réservé sa colère
pour ses ennemis. C'est comme ça. Il faut qu'on connaisse les voies de Dieu, la façon que Dieu agit. Dieu agit toujours avec amour, mais aussi avec équité. Mais Dieu agit aussi. Dieu est un Dieu d'alliance. Quelles sont les voies que Dieu utilise? Dieu est un Dieu d'alliance. Il a établi les alliances avec son peuple. Et une fois qu'il a traité une alliance avec son peuple, il s'est engagé à agir d'une certaine façon avec son peuple d'alliance. Il y a certaines choses que moi, je sais que je ne vais jamais, jamais, jamais expérimenter. La colère de Dieu. La correction de Dieu, oui. Mais la colère de Dieu, comme c'est décrit en Apocalypse, les fléaux qui vont être jetés sur la terre et toutes les choses que les non-croyants et les ennemis de Dieu vont vivre, moi, je n'ai pas peur, je ne vais jamais vivre cela. Parce que Dieu n'agit pas de même avec son peuple d'alliance. Il ne fait pas ça à lui-même. À lui-même? Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin. Et je fais partie du corps de Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête, je suis le corps, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Donc vous savez, il faut vraiment changer notre optique, chercher la face de Dieu, connaître que Dieu aime tout le monde, mais il est en alliance avec ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et plus vous connaissez les voies de Dieu, comment il fonctionne, c'est beaucoup plus facile pour vous de comprendre la volonté de Dieu. Moi, je sais, hein? Je sais qu'est-ce que Dieu va faire et je sais qu'est-ce qu'il ne va pas faire dans certains domaines. Je ne connais pas toutes choses, les choses secrètes appartiennent à l'Éternel, Deutéronome 29. N'est-ce pas? Moi, je ne suis pas en train de dire que je comprends toutes les voies de Dieu dans tous les détails. Non, parce que Dieu est infiniment plus grand que moi, n'est-ce pas? Il y a des voies que je n'ai pas encore compris, des choses que je n'ai pas encore vues, mais je connais quand même en partie aujourd'hui. Et la partie que je connais, je sais que Dieu est bon, que Dieu est un Dieu qui est miséricordieux, lent à colère, plein de compassion, et qui a compassion de moi comme un père a compassion de ses enfants. Et je sais que moi, si mon enfant fait quelque chose qui n'est pas correct, je ne vais pas dire, bon, mais viens ici, je vais t'injecter un microbe pour que tu tombes malade, pour que tu puisses apprendre une bonne leçon. Imaginez si les pères feraient ça ici sur la terre. Hein? Viens ici, hein? Tu n'as pas fait tes devoirs. Prends ça, c'est la grippe cette semaine. Attends une minute. Ça se peut pas. Un papa n'agit pas de même. Un papa peut dire, mets ton manteau, parce que si tu ne mets pas ton manteau, tu peux avoir froid et tu peux tomber malade. L'enfant qui n'est pas obéissant va aller dehors sans son manteau, jouer dans la neige, et ça se peut qu'il va être malade, n'est-ce pas? Il y a des fois, moi, j'ai besoin de corriger mes enfants. J'ai besoin de les laisser expérimenter certaines conséquences de leurs actions, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi qui va infliger ces choses sur eux, n'est-ce pas? Et c'est ça la différence. Il faut connaître les voies de Dieu. Et c'est en connaissant les voies de Dieu, votre foi va rester ferme. Et vous allez rester attaché aux choses que vous avez entendues, n'est-ce pas? Deuxième chose qu'on a besoin de faire pour avoir une foi qui est ferme. Numéro 2, activer la parole de Dieu en la mélangeant avec votre foi. Vous savez, ici dans la parole, Hébreux 2, c'est marqué qu'à cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servi de quoi? De quoi? De rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que vous êtes d'accord que la parole de Dieu est puissante? Mais la parole de Dieu ne servait de rien. Si je dirais aujourd'hui, oh, la parole de Dieu ne sert à rien, vous direz, mais la Bible dit, la parole de Dieu n'a servi de rien pour ces personnes qui, on parle des enfants d'Israël encore, ceux qui ont été dans le désert pendant 40 ans avec Moïse, ils ont entendu la parole de Dieu. Dieu a promis une terre promise. Il a dit que je serai avec vous. un pays qui coule avec le lait et le miel. Dieu a promis de leur donner le pays, de chasser devant eux tous les autres habitants et de les établir là. Ils ont entendu la parole, mais la parole qu'ils ont entendue n'a servi de rien. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui est marqué? On va le lire ensemble. Parce que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il ne trouva pas de la foi. J'ai regardé, parce que je sais que dans la Bible anglaise même, c'est marqué, il n'y avait pas de foi mélangée avec la parole qu'ils ont entendue. Et j'ai vérifié dans le grec, et littéralement, c'est ça que cela veut dire. Littéralement, cela veut dire qu'ils n'ont pas mélangé leur foi avec la parole qu'ils ont entendue. Et si vous voulez rester attaché aux choses que vous avez entendues, à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, il faut mélanger votre foi avec. Sinon, on peut avoir deux éléments séparés qui ne font rien. C'est comme le vinaigre et le soda. Comment est-ce qu'on dit ça? Le bicarbonate de soda. De soudre. Baking soda. Tu tournes la boîte, l'autre côté, baking soda. Ça. Moi, je jouais avec ça quand j'étais jeune. Je faisais les petites bombes avec, n'est-ce pas? Et c'était bien facile. On mettait un peu de vinaigre dans le fond d'une bouteille en plastique. Et puis, on laissait un bon espace. Et puis, on mettait un petit essuie-tout, un petit morceau d'essuie-tout avec une bonne quantité de baking soda. La petite vache. Et on faisait bien attention de ne pas agiter la bouteille. On mettait le couvercle, et aussi longtemps que les deux éléments étaient dans la même bouteille, mais pas mélangés, ça ne faisait rien. Mais quand on voulait avoir du fun, on brassait ça juste une fois, on lance la petite bouteille, c'est pas une grosse explosion, mais quand même, dans quelques secondes, ça va exploser. Pourquoi? Parce que les deux éléments mélangés ensemble ont activé la puissance qui se trouvait à l'intérieur d'eux. On peut avoir, moi, autrefois, je faisais beaucoup, j'avais les armes à feu à poudre noire. Et vous savez, on met le poudre noire dans le canon d'un fusil. Et aussi longtemps qu'on n'a pas de feu, ça ne fait rien. On peut mettre autant de poudre noire qu'on veut. Mais aussi longtemps qu'on ne le mélange pas avec le feu, on n'a pas de puissance. Vous pouvez entendre autant de paroles que vous voulez. Vous pouvez venir à l'église 7 jours sur 7. Vous pouvez faire vie victorieuse et entendre 3 personnes enseigner la parole de Dieu pendant 6 semaines sans rien changer dans votre vie. Ou vous pouvez entendre la parole de Dieu, mélanger votre foi avec et voir la force de Dieu exploser dans votre vie. La parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4, 12 dit ceci, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est vivante, autrement dit, la parole est vivante. Mais laisse-moi vous dire, même si la parole est vivante, elle ne va pas produire du fruit dans votre vie, à moins qu'elle soit mélangée avec votre foi. Il y a un verset qui est tellement puissant, ici en Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, dans vos notes. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Quand vous recevez la parole, il faut la recevoir pas comme une parole d'un homme. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire, « Ah, mais tu sais, la Bible, c'est juste les hommes qui l'ont écrit. » Est-ce que vous avez entendu cela dernièrement? Oh, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est vraiment Dieu? C'est juste les hommes qui l'ont écrit. Laisse-moi vous dire, on a plein d'évidences qui nous démontrent que, oui, c'est les hommes qui l'ont écrit, mais poussés par l'Esprit Saint, inspirés par l'Esprit Saint. Il y a des choses que les hommes ont écrites sous l'inspiration de l'Esprit, et 400 ans avant le temps, ils ont nommé certains leaders par nom. Cyrus, n'est-ce pas? Donc là, on voit qu'un homme ne peut pas prévoir cela. On a tellement d'exemples qui nous prouvent que cette parole, ce n'est pas une parole humaine, c'est une parole divine. Et si on reçoit cette parole telle qu'elle est, véritablement la parole de Dieu et non pas la parole de l'homme, là, et si on mélange notre foi avec, elle peut faire quelque chose dans notre vie. Mais sinon, vous pouvez lire la même Bible, la journée longue. Vous pouvez lire cette Bible jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine, année après année, sans jamais être changé, si vous n'ajoutez pas votre foi et ne mélangez pas votre foi avec. Mais regarde bien qu'est-ce qui est tellement fort dans ce verset qu'on vient de lire. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit. Tout le monde dit qui agit. Laisse-moi vous dire, la parole agit. Il y a une action dans la parole. La parole est esprit, la parole est vérité, et la parole de Dieu agit. Mais la parole de Dieu n'agit pas en tout le monde. La petite vache n'agit pas en tout temps. La petite vache qui est dans ton placard, dans l'armoire, dans la garde-manger, dans une boîte, ne fait pas grand-chose, vous êtes d'accord? Mais si on prend cette même petite vache et on ajoute et on est capable de le mélanger avec du vinaigre, ça va agir. Et la même parole qui agit dans la vie d'une personne peut rester inactive dans la vie d'une autre personne. Et c'est quoi la différence? Ici, c'est marqué clairement. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui fait quoi? En vous qui croyez. Quand vous croyez, la parole est activée. Amen? Quand vous croyez, la parole que vous entendez est activée. Ça commence à faire son œuvre. Ça commence à agir dans votre vie. Et quand la parole de Dieu agit, comme on a dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole est capable de faire tout dans votre vie. Changer votre comportement. N'est-ce pas? Vous délivrez des mauvaises habitudes. Chassez les mauvaises microbes de votre corps. C'est ça la Bible dit. Il a envoyé sa parole, il les a guéris, n'est-ce pas? Mais la parole doit être activée. Et je veux tellement que l'Esprit nous donne une révélation de cela aujourd'hui. Des fois on dit, oh, ben, qu'est-ce que ça donne de faire la lecture de la parole de Dieu à tous les jours? Ça donne rien si vous n'ajoutez pas la foi avec. Mais si vous lisez la parole de Dieu à tous les jours et vous croyez qu'est-ce que vous lisez, elle va être activée. N'est-ce pas bon? Donc, il faut laisser la parole agir. Mais pour que la parole agisse, il faut croire. Et croire, c'est un verbe. Un verbe, c'est une forcément, c'est une action. Croire, c'est pas dire, c'est pas un sentiment intellectuel qui dit, ah oui, je crois. Comme j'ai donné l'exemple l'autre jour, quelqu'un ici dans la rue, qui joue dans la rue et un camion vient à 90 km à l'heure. Ici, sur la rue Mélenchon, ça serait quelque chose, hein? Et on dit, attention, il y a un camion qui arrive à toute vitesse. Oui, je crois, qui m'a dit qu'il y a un camion qui arrive à toute vitesse. Je crois. Le gars, il ment pas. Je sais qu'il dit la vérité. Mais le gars qui bouge pas, ça, c'est pas la foi. La foi va dire, oui, il a dit, et il va bouger. C'est la même chose. Quand vous lisez quelque chose, mettez votre foi en action. Faites des actions qui correspondent à ce que vous croyez, n'est-ce pas? Mélangez votre foi avec la parole et la parole va agir dans votre vie. Donc, efforcez-vous de connaître les voies de Dieu. Activez la parole de Dieu en la mélangeant avec votre foi. Et numéro 3, n'abandonnez pas votre assurance. Hébreux 10, 35 dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Et j'aime cette partie-là. « À laquelle est attaché. » On parle d'être attaché à ce que nous avons entendu, n'est-ce pas? Mais sachez que, « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Pas une petite rémunération, mais une grande rémunération. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Comment est-ce qu'il nous rémunère? Par la foi. Sa parole qui agit dans notre vie. Donc, vous voyez, ça va tout de pair. Si je reste attaché à ce que j'ai entendu, si je connais les voies de Dieu, si je laisse agir la parole de Dieu dans ma vie, en croyant à la parole de Dieu, et si je n'abandonne pas mon assurance, il y a une grande rémunération attachée à mon assurance. C'est-à-dire que je vais recevoir les choses que j'ai demandées. C'est-à-dire que je vais voir les promesses de Dieu manifestées. C'est-à-dire que je vais voir la main de Dieu agir parce que j'ai connu les voies de Dieu. Amen. Regarde bien. Car vous avez besoin de quoi? C'est pas marqué, vous avez besoin de plus de prières. Vous avez besoin de plus de sympathie. Souvent, c'est ça notre problème. On veut la sympathie, on ne veut pas vraiment que la parole de Dieu agisse dans notre vie. On a des problèmes et on veut en parler à tout le monde. C'est correct de parler avec les bonnes personnes au bon moment à propos de nos problèmes pour qu'ils puissent prier, n'est-ce pas? Mais juste dire, oh, j'ai eu de la misère, oh, 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 et on se plaint. Des fois, c'est comme, flatte-moi le dos. Montre-moi que tu vas avoir de la sympathie pour moi. Oh, pauvre toi, oui, on va prier pour toi. C'est correct. Je suis quelqu'un, moi, j'aime prier pour les autres. Je demande la prière pour moi-même quand je suis dans le besoin. Je ne suis pas gêné de demander aux autres de prier pour moi. Amen? Surtout moi, j'ai mes pasteurs et mes leaders spirituels. Souvent, hein, si j'ai des besoins, je vais les appeler. Aussi, je dis, bon, on a besoin de telle chose. Est-ce que tu peux te mettre en accord avec nous? Il n'y a pas de problème là. Mais, au moment donné, après avoir prié, il faut croire avoir reçu, et il faut tenir ferme, et il faut garder notre assurance, et il faut être persévérant. Et c'est marqué ici, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. C'est-à-dire que si je n'ai pas de persévérance, je ne vais pas obtenir ce que Dieu m'a promis. Si je me laisse emporter loin de ce que j'ai entendu, je ne vais pas obtenir ce que Dieu m'a promis. Vous avez besoin d'assurance. Je pense à Abraham. Abraham a cru à Dieu. Dieu a dit, je ferai de toi une père d'une grande nation. Et pendant des années, il se présentait, il faisait la déclaration de sa foi. Salut, je suis le père d'une grande nation. Salut, je suis le père d'une grande nation. Salut, je suis le père d'une grande nation. Je suis content de te connaître. Je suis le père d'une grande nation. Et tout le monde voyait qu'il n'avait pas d'enfant. Sauf Ismaël qu'il a eu avec sa servante. Mais il dit, je suis le père d'une grande nation. Il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et heureusement, il a persévéré. Il s'est pris autour de 25 ans avant de voir et avant d'obtenir la promesse que Dieu lui a donnée. Heureusement, il a persévéré, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Vous avez besoin de persévérance. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, je crois que de tout mon cœur que Dieu voulait que j'amène ce message aujourd'hui pour vous encourager. De rester attaché. Comme le capitaine de la navire, pendant la tempête, il va prendre une corde et il va s'attacher pour rester ferme, pour rester à sa place, pour ne pas se laisser emporter par le vent, pour ne pas se laisser emporter par les circonstances, mais pour garder ses yeux sur le but et de continuer son voyage de foi. Amen. Restez attachés. Attachez-vous à ce que vous avez entendu. connaissez les voies de Dieu. Laissez agir la parole de Dieu en croyant dans cette parole et n'abandonnez pas votre assurance.